vogue le navire. Une émission réalisée et présentée par Sylvie Caquet. Évogue le navire, une émission de l'Agence régionale du spectacle vivant.
Bonjour à tous. Évogue le navire revient pour une nouvelle saison consacrée au spectacle vivant en région Poitou-Charentes, c'est-à-dire à la musique, à la danse, au théâtre, au cirque, aux arts de la rue, à la marionnette et au conte. Nous voguerons ensemble 52 minutes au fil des semaines à la rencontre des artistes qui créent des spectacles, se produisent en concert, sortent des nouveaux albums. Nous irons à la rencontre aussi des professionnels qui les produisent et les accueillent dans leurs salles ou leurs festivals. Pour notre premier rendez-vous, je reçois aujourd'hui les danseuses chorégraphes Laurence Barrault et Hélène Massé qui poursuivent depuis quelques années, à travers la compagnie L2, un travail axé sur la transversalité des arts, la danse avec le théâtre, la musique, les arts plastiques. Leur nouveau spectacle convoque autour du duo qu'elles forment sur scène la musique de Dan Panama, le texte de Jean-François Rousseau, la vidéo de Laurent Meunier, pour ne citer que, car c'est toute la synergie d'une équipe d'artistes qui nous emmène à la rencontre du personnage de Proserpine, amoureuse de son nouveau voisin. Je n'en dis pas plus, je laisserai la parole à Laurence Barrault et Hélène Massé qui nous raconteront l'histoire singulière de cette jeune femme qui se laisse pousser des racines, figurez-vous. Le spectacle « Le jour où je suis partie faire pousser mes racines » sera présenté pour la première fois au public le 30 septembre et le 1er octobre au Centre de la Blaiserie à Poitiers. Bonjour Laurence Barrault.
Bonjour Sylvie.
Alors Laurence, on va démarrer l'émission toutes les deux et puis on laissera Hélène Massé nous rejoindre peut-être après la première pause musicale, bien parce qu'elle est occupée par ailleurs. Et
voilà, ouais. Elle ne pouvait pas nous rejoindre dès le début de l'émission.
Mais voilà, c'était dommage de se priver de sa présence.
Tout à fait.
Le jour où je suis partie faire pousser mes racines, vous n'avez pas choisi la facilité avec ce titre qui évoque plus l'univers du conte que celui de la danse.
D'une certaine manière, ce spectacle s'appuie sur un conte qui a été écrit à propos de ce personnage, Proserpine. Et on a gardé le titre original de l'auteur, en fait.
Et l'auteur de ce texte ?
Il s'appelle Jean-François Rousseau, et qui a écrit, si je remonte un petit peu à l'historique de cette histoire, nous avions envie d'écrire autour d'un personnage, qui s'est très vite appelé Proserpine, pour des raisons qui sont un peu compliquées à expliquer, dans le sud de Sèvres, où nous étions en résidence. Et nous avons fait une commande à un garçon que je connais bien, et qui est comédien, et qui est aussi écrivain.
Vous pouvez lui donner son nom?
Donc, il s'appelle Jean-François Rousseau.
Voilà, c'est
et qui est aujourd'hui, il a arrêté d'être comédien, d'ailleurs, il est jardinier maintenant. Et nous sommes allés le voir et nous lui avons demandé de nous écrire cette histoire de Proserpine sans balles. Donc on est arrivé avec un certain nombre d'idées et lui il a écrit autour de l'histoire de son anniversaire et de la difficulté des choix qu'elle a à se poser quelque part, notre personnage. Il a écrit un texte et il a écrit un texte tel, il a été tellement prolixe que dans ce texte il y avait vraiment ce conte, donc le jour où je suis partie faire pousser mes racines, et un autre qui s'appelle Quand je suis arrivée dans l'Himalaya. Et donc, on s'est dit, ça fait trop, déjà, qu'on a dû élaguer énormément dans le premier spectacle par rapport à la quantité de textes qu'on avait. On a dû faire des choix. On s'est dit, on fera plus tard le début de l'histoire, qui est quand je suis arrivée dans l'Himalaya, et la fin de l'histoire, qui s'appelle le jour où je suis partie faire pousser mes racines.
On a trois spectacles, c'est une trilogie.
Et on a fait comme Georges Lucas, on a commencé par le milieu, qui s'appelle Proserpine sans balles. On est sur le troisième volet et on fera le premier volet, je pense, l'année prochaine.
Voilà. Ah, c'est une démarche singulière quand même en tant que danseuse que vous commandiez un texte, une histoire à un auteur.
Ah oui, je pense que c'est un petit peu singulier, mais c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé moi sur un trio précédemment. Où j'avais déjà envie de travailler avec un comédien sur scène. Donc lui, il jouait dans le spectacle, ça s'appelait Entre nous. C'est un spectacle qui a précédé Proserpine. Et je lui ai raconté une histoire, et puis il arrivait un jour avec des textes. Je savais pas du tout. Je lui ai proposé de venir sur cette aventure en tant que comédien. Et je pensais qu'on allait écrire des choses ensemble, mais il est arrivé, il avait plein de textes. En fait, il avait déjà écrit plein de textes, et les textes étaient extraordinairement en écho avec l'histoire que je voulais raconter. Au point que j'ai des amis qui sont venus voir le spectacle et étaient persuadés que c'était moi qui avais écrit les textes. Quoi. C'était très troublant. Et donc, on a écrit un duo donc, qui s'appelait Entre nous, avec un musicien qui était déjà Mathieu Metzger et qui a fait la musique. Donc j'ai continué avec la même équipe de
Proserpine.
De Entre nous, sur Proserpine. Voilà, c'est ça. Sauf que sur Proserpine, j'ai enfin pu m'entourer d'autres danseuses. C'est-à-dire Hélène qui a commencé à collaborer avec moi à ce moment-là, enfin qui était déjà venue un petit peu m'aider, faire un regard extérieur sur Entre nous, et qui est venue me rejoindre après sur le spectacle suivant, et une autre danseuse qui s'appelle Katia Hyperti, qui était dans Les Deux-Sèvres, et avec qui j'avais aussi déjà travaillé avant. Moi, je suis assez fidèle, j'aime bien travailler, quand je m'entends bien avec les gens, j'aime bien qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. Donc voilà. Donc ce personnage et cette histoire est née dans Les Deux-Sèvres en 2004-2005. Et ben, on a fait d'autres spectacles entre les deux. Et puis maintenant, ben, on fait la dernière partie et on va faire la première partie plus tard. Je ne sais pas pourquoi on fait comme ça.
En 2011-2012.
Voilà, c'est ça.
La saison prochaine.
Exactement. C'est ce qu'on prévoit de faire. On ne sait jamais. Entre les deux, la dernière fois, c'est ce qu'on prévoyait. Et puis entre les deux, on a fait la trêve, on a fait d'autres projets. Donc on ne sait jamais. Hein. Mais a priori, c'est prévu comme ça, oui.
C'est un conte, vous nous disiez, c'est une fable sur l'amour, la métamorphose.
Bah c'est une fable qui parle d'à quel point le désir d'une femme la métamorphose à l'intérieur d'elle-même et à quel point c'est presque indépendant de l'objet du désir en fait, puisque là l'objet du désir est presque inexistant, il est juste et à quel point
un prétexte en fait.
Et voilà, il est plus qu'un prétexte, il change à chaque fois par ses appréciations, il vient, il donne une appréciation et à chaque fois elle change quelque chose. En fait, et à un moment donné, elle est prise dans le jeu de ça et elle se transforme, elle est prise dans le plaisir de cette transformation, de cette abondance que ça crée en elle, de ce développement que ça crée en elle et de ce que ça lui donne comme enracinement et comme possibilité de développement. Et, enfin, c'est, en gros, c'est ça l'histoire de ce spectacle.
Finalement, le chemin de Proserpine, c'est le chemin que doit parcourir tout danseur pour exprimer son art.
Je ne sais pas, peut-être. Peut-être, en tout cas, c'est l'histoire, effectivement, des choix qu'on a toujours à faire entre, comment on a besoin de se centrer sans arrêt pour être en mouvement. Enfin, c'est un petit peu c'est une histoire de danseur. Le fait de pouvoir effectivement trouver ses racines permet le mouvement en fait et la liberté dans le mouvement. Ouais, c'est ça un petit peu l'histoire de Proserpine. Si on ramène cette métaphore au niveau de ce que peut être la danse et ce que peut être la vie d'ailleurs plus généralement.
Alors Laurence Baron, avant de parler plus avant de Proserpine et puis de faire plus ample connaissance avec vous, je vous propose de marquer une première pause musicale qui va être l'occasion d'écouter un extrait non pas du Proserpine qui va être créé prochainement, mais du Proserpine d'avant. C'est une musique qui a été écrite par un musicien poitevin qui poursuit sa route aujourd'hui au sein de l'Orchestre National de Jazz, qui s'appelle Mathieu Metzger.
Mmh, et qui fait beaucoup de choses très différentes de ce que vous allez entendre là, je le précise, parce qu'on va entendre vraiment quelque chose qui a été écrit exprès pour ce spectacle. C'est un musicien très très brillant, très très doué, très très sensible aussi. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir travaillé deux fois avec lui, même trois fois, parce qu'il a travaillé aussi un petit peu sur la trêve, mais il n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer sur la trêve. Il n'a plus beaucoup de temps et je m'en réjouis parce que vraiment, je pense qu'il mérite d'être une reconnaissance nationale, on va dire. Et vous allez entendre dessus une partie du texte. On a choisi ce morceau parce qu'il y a une petite partie du texte de Jean-François qui est dit par une comédienne qui s'appelle Edith Gambier et qui était dite, qui permettrait un petit peu de rentrer dans l'histoire du personnage. Bon, sans les images, évidemment, et sans la danse qui allait avec, parce que là, il y avait aussi évidemment, c'était un trio dansé, cette partie que vous allez entendre. Voilà.
Pour détruire le virus du désordre qui s'était emparé dès son plus jeune âge de ma maman. Maman passait son temps à ouvrir la fenêtre que grand-mère passait son temps à refermer. Maman, c'est la tête dans les nuages. Le petit oiseau rêveur qu'on a mis gentiment en cage parce que dehors c'est trop dangereux. Mais le petit oiseau s'en fiche du danger. Lui, ce qu'il veut, c'est voler. Alors un jour, avec un oiseau de passage, un petit poussin est né. C'est moi, la Proserpine.
Et vogue le navire.
Une musique de Mathieu Metzger, extrait du spectacle Proserpine s'emballe. Les chorégraphes danseuses Laurence Barraud et Hélène Massé de la compagnie L2 sont les invités des Vogue le Navire cette semaine pour nous parler de cette nouvelle pièce qui sera créée le 30 septembre et 1er octobre au centre de la Blaiserie à Poitiers. Et qui s'appelle « Le jour où je suis partie faire pousser mes racines ». Laurence Barraud, on attend toujours Hélène Massé, en espérant qu'elle nous rejoigne maintenant assez rapidement. Parce que je voudrais qu'on parle du travail de la compagnie, de son histoire et puis de votre parcours à vous et à Hélène. Vous avez créé la compagnie L2 il y a quelques années déjà, c'était en 1995 à Poitiers.
Alors, ce n'était pas avec Hélène, hein, c'était avec une autre danseuse qui s'appelle Lynn Plumereau.
D'où le nom de la compagnie L2.
Laurence et Lynn. Et donc, on a cheminé un peu ensemble. Et puis, Lynn a changé de parcours, elle aussi, dans des activités plus terriennes de jardinage.
Décidément.
Décidément. Et c'est Hélène qui est venue prendre cette place qui restait pour qu'on soit deux dans cette compagnie, au moins à apporter ses projets, et avec tous les, évidemment, les collaborateurs qu'on peut avoir sur les différents projets qu'on mène ensemble, ou séparément des fois aussi.
Vous connaissiez donc.
Alors on se connaissait parce qu'on avait travaillé, on a travaillé dans une association très poitevine, très très ancienne, qui s'appelait Danse en Chantier, dont certains peut-être se souviennent encore. On était une bande de copines, on va dire, d'un peu partout dans la région. Et on faisait venir des chorégraphes pour nous montrer des chemins de composition chorégraphique, plus que pour faire vraiment des cours de danse. On a eu des belles aventures avec cette association Danse en Chantier. Et on s'est connus comme ça avec Hélène. Alors, l'intérêt de cette association, c'est que ça nous a permis de nous brasser un peu au niveau régional, de nous connaître et de croiser nos envies de composition, nos envies de création, nos façons de nous organiser et tout ça pour ce travail. Donc voilà, et Hélène, on s'est rencontrés déjà à cette époque-là. Puis Hélène est partie, a fait son chemin d'interprète à Paris et aussi de création à Paris. Et elle est revenue s'installer dans la région. Et donc voilà, elle m'a appelée. Je l'ai invitée. On était sur le travail d'entre nous à ce moment-là. Et je lui ai proposé de venir déjà faire un petit regard extérieur parce que c'était difficile pour moi. J'avais engagé une danseuse qui était partie. Donc je me retrouvais à devoir danser. J'étais obligée de prendre la place de mon interprète.
De deux partitions, finalement.
Voilà. Et donc j'avais besoin d'un regard extérieur. Donc Hélène est venue à ce moment-là. Et puis après, on a collaboré sur pas mal d'autres projets. dont celui d'aujourd'hui.
Dès le début, vous mêlez dans vos créations plusieurs disciplines artistiques. Donc, la musique, bon, eh bien, la rencontre entre la danse et la musique est assez naturelle.
Oui.
Mais bon, le théâtre,
C'est moins courant. C'est très à la mode aujourd'hui. Mais au moment où on commençait, on était un petit peu sur des questionnements autour du sens et du public. C'est-à-dire qu'on trouvait ça navrant d'avoir toujours des spectacles de danse contemporaine où un certain public sortait en disant qu'il ne comprenait rien, etc. Enfin, donc on se demandait comment on pourrait débarrasser la danse du sens, que les gens ne se posent pas la question du sens, pour être dans la sensation. Et donc on a commencé à écrire la danse, moins comme une... On en parlait il n'y a pas très longtemps avec Hélène, mais un petit peu moins comme des partitions contemporaines, c'est-à-dire un peu structurées comme la musique, avec des phases répétitives, etc. De la composer comme la musique, mais plutôt de la composer comme le théâtre ou comme la danse classique qui était composée aussi avec une histoire qui se raconte et tout ça. Et aussi de travailler sur des gestes quotidiens que chacun pouvait identifier dans ses sensations immédiatement. Et pouvait vivre de son fauteuil, parce que c'est des gestes qu'il a fait dans sa vie. Donc on a commencé à travailler sur cette écriture du geste quotidien, dont il reste des traces encore aujourd'hui dans nos pièces. Hein. On ne travaille pas essentiellement là-dessus aujourd'hui, mais ce travail, ce premier travail sur L2, autour de cette écriture du geste quotidien, est resté ancré dans nos spectacles. Après, donc, on avait un souci aussi de ça, quoi, de raconter quelque chose, de raconter une histoire, et pas simplement d'être dans la poétique du mouvement ou dans des formes expressionnistes du mouvement, quoi. Voilà, aujourd'hui, notre écriture est beaucoup plus ouverte que ça, que ses premières recherches, mais elle a été imprégnée par ça.
Surtout que vous avez eu une expérience avec le théâtre.
Ben, un petit peu, moi j'ai fait un petit peu de participation théâtrale avec Jean-Louis Audin, avec d'autres metteurs en scène. Je rêve d'ailleurs de travailler des metteurs en scène. Je me suis beaucoup intéressée à des chorégraphes que connaît, une chorégraphe que connaît aussi Hélène, qui s'appelle Christine Bastin et qui a aussi beaucoup collaboré avec des comédiens et dont j'aime vraiment le travail. Enfin, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses derniers travaux, mais j'aime beaucoup son travail, précisément parce que ça touche quelque chose qui est aussi de l'ordre de ma recherche. Voilà, quand j'ai vu la première fois que j'ai vu une pièce d'elle, je suis allée faire un stage tout de suite pour essayer de comprendre comment elle travaillait et comment... Et dans ces pièces, ce que j'aimais aussi, c'était comment elle faisait intervenir des comédiens. Donc ça me donnait très envie de faire jouer quelque chose entre des danseurs et des comédiens. Et je trouvais ça qu'elle faisait ça merveilleusement. Et donc j'ai tenté ça avec Jean-François sur Entre nous. Et c'était une belle aventure, pas très facile, mais une belle aventure. Et j'ai tenté ça aussi sur La Trêve. Où c'était aussi une magnifique aventure, mais une aventure cette fois plus théâtrale, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de textes. Donc il y avait un comédien qui portait beaucoup de textes, de Jean-François aussi, toujours pareil, mais il y avait aussi deux danseurs qui l'accompagnaient, et moi là je me suis sortie un peu du rôle d'interprète pour chorégraphier, mettre en scène tout ça. C'était une merveilleuse expérience. Pas de metteur en scène, j'oserais pas dire ça, mais malgré tout de mise en espace et d'essayer cette rencontre entre le théâtre et la danse, voilà.
Et puis vous intéressez aussi aux arts plastiques.
Oui, alors ça c'est.
Si j'ai bien compris, vous êtes plasticienne.
Non, je suis pas plasticienne. Je suis, je fais un petit peu de modelage. Et je vais aussi dans une école d'arts plastiques.
Suivre des cours
depuis pas longtemps. Mais je ne me considère pas comme une plasticienne. Hein. J'ai commencé à faire du modelage parce que j'avais besoin de poser le mouvement dans la terre. J'avais besoin un peu de me reposer, je ne sais pas. Enfin, c'était... Donc j'ai fait une série de modelages et j'ai fait un spectacle d'ailleurs autour de cette expérience. Mais je veux dire, j'appelle pas ça être plasticien au sens de ce que j'admire dans l'art contemporain et dans les plasticiens contemporains quand même. Je voudrais être très très modeste là-dessus. J'ai une façon de je pense que j'ai une façon de faire d'une danseuse en fait, dans cette pratique-là. Voilà. Je fais ça à la façon d'une danseuse, pas à la façon d'un plasticien. Par contre, ça m'intéresse, la rencontre avec les plasticiens. Donc, j'essaye à chaque fois que je travaille, de travailler vraiment avec des constructions d'objets, des constructions de décors, avec des plasticiens.
Je trouve que Hélène Massé vient nous rejoindre. Entrez, Hélène Massé. Bonjour, Hélène Massé.
Bonjour.
Alors, on parle de la compagnie L2,
oui.
Que vous co-dirigez avec Hélène, que vous co-dirigez avec Laurence Barrault, on peut dire les choses comme ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça. Je suis un peu plus nouvelle, parce que je n'étais pas à l'origine de la compagnie, voilà, mais ça fait quand même un petit moment qu'on travaille ensemble. Je suis arrivée sur, à partir de Entre nous, à peu près, le spectacle.
Et la répartition des rôles se fait comment entre vous deux ?
Bonne question. C'est assez, on est assez complémentaires. Donc il y a des choses, on est très complémentaires. Il y a des choses sur lesquelles on est très complices. Donc pour ce qui est de l'écriture chorégraphique, tout ça, je pense qu'on fait beaucoup de dialogues, d'aller-retour, de renvois. Voilà. Après, pour tout ce qui concerne l'organisation, on se répartit les rôles aussi en fonction des autres activités qu'on a ou des disponibilités. Puis aussi peut-être de ce que chacune sait le mieux faire ou peut le mieux appréhender.
Vous vous êtes retrouvée alors que vous veniez d'un univers ou d'une formation assez différente. Il y en a une de vous deux qui a fait de la danse classique, je crois. Hélène,
ou... Oh là, non, enfin moi c'est plus ancien, hein, je suis pas. C'est Lynn Plumereau qui était au départ de la compagnie, qui avait fait plus de classique.
Ah bon, d'accord.
Moi je suis quand même une danseuse contemporaine, j'ai fait du classique quand j'étais petite, mais je suis pas une danseuse, je viens pas du classique moi, je viens plutôt de la même formation que Laurence, on se connaissait déjà depuis longtemps. Après j'ai des formations complémentaires effectivement, j'ai aussi fait pas mal de danse africaine et...
Les danses traditionnelles.
Les corporelles, les danses traditionnelles, voilà. Mais je suis quand même plutôt dans le courant de ce qu'on appelle la danse contemporaine, avec des...
Et puis, vous avez, Laurence Barrault, avant de créer la compagnie, vous avez eu une vie d'interprète, vous avez travaillé pour les autres.
Moi, assez peu, en fait. J'ai travaillé... assez peu. Je travaillais avec Odile.
Odile Azaguri, voilà, qui est une chorégraphe qui a beaucoup travaillé sur Poitiers, la région.
Qui travaille encore. Donc j'étais dans sa compagnie, au début de sa compagnie. J'ai dû faire deux ou trois créations avec elle. Voilà, mais ma vie d'interprète s'est arrêtée là, moi. Assez vite, parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de possibilités. J'étais... Voilà, j'ai pas pris comme Hélène mon envol et je suis pas allée à Paris, donc j'ai monté cette petite compagnie avec Lynn et voilà, j'ai commencé à travailler là sur mes propres. Hélène a un parcours d'interprète un peu plus important que moi, je pense.
Enfin oui, moi j'étais interprète pour plusieurs chorégraphes, oui, dont aussi des chorégraphes qui sont sur la région d'ailleurs, parce que. Je travaillais avec Claire Servant,
oui. La compagnie Alice de Luxe, ouais, à Chauvigny.
Voilà, sur les débuts. J'ai travaillé avec Caroline Dudan, qui n'est plus
dans la chorégraphe. Région.
Mais si, elle est dans la région, mais elle travaille maintenant au conservatoire. Elle est professeure au conservatoire. Voilà, et puis après, j'ai travaillé sur Paris, avec plusieurs compagnies, des petites compagnies qui ne sont pas forcément très connues, mais Annie Bourdier, des gens comme ça, quoi.
Voilà, puis aujourd'hui, toutes les deux, vous vous consacrez
voilà,
entièrement.
Puis après, j'ai commencé, moi aussi, à chorégraphier en croisant toujours déjà avec des gens de théâtre, des musiciens, beaucoup. Donc, c'est un parcours qui est un petit peu similaire, malgré tout, quoi, dans les rencontres, dans le type de rencontres et le type d'articulation des écritures. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aussi,
fait,
hein,
oui,
parce qu'on avait, cette envie de toujours croiser les langages, bon, c'est pas non plus en dehors des sentiers d'aujourd'hui, on va dire, mais...
Des sentiers d'hier, un peu.
Voilà, oui, c'est des préoccupations assez anciennes.
C'était moins à la mode qu'aujourd'hui.
C'est des préoccupations assez anciennes, ouais.
Alors, je vous propose qu'on marque une deuxième pause musicale. On va écouter la musique spectacle qui s'appelle La Trêve,
un spectacle qui remonte à quelques années
deux
déjà.
Deux ans, pas si vieux que ça. C'est pas
si
vieux que ça. C'est un spectacle qu'on a joué l'année dernière à Poitiers, qui est un spectacle, je vous disais, dont la forme est plus théâtrale, parce que là, il y a carrément un texte qui fait 30 ou 40 minutes, pas loin, où il y avait deux danseurs, un comédien. Moi, je jouais un rôle minimal, mais très important, et qui est le rôle du personnage qu'on va entendre, de ce qu'on va entendre là. Voilà, j'intervenais au moment de la musique qu'on va entendre là.
Et cette musique, en fait, n'est pas une musique que vous avez commandée, mais que vous avez épuisée.
Voilà, c'est un des rares, c'est assez rare, parce que depuis la création de la compagnie, on a toujours travaillé avec des musiques originales. Et ça, c'est un des rares choix musical complètement... qui n'est pas une création originale pour nous, quoi.
En fait, c'est une chanson traditionnelle yiddish.
Juive. Qu'on a rencontré pas très longtemps avant le spectacle, et qui c'était extraordinaire cette rencontre de cette musique-là, parce que ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait. Vous savez, des fois, il y a des synchronicités dans la vie, où tout d'un coup, vous entendez quelque chose et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et cette musique, elle parle exactement de quelque chose de ce spectacle-là. Voilà.
Vogue le navire.
C'était Sylvie Sylvane dans un chant traditionnel judéo-espagnol. Les chorégraphes danseuses Laurence Barraud et Hélène Massé de la compagnie L2 sont les invitées des Vogue le navire cette semaine pour nous parler de leur nouveau spectacle. Ce spectacle s'intitule « Le jour où je suis partie faire pousser mes racines » et il sera créé les 30 septembre et 1er octobre au centre de la Blaiserie à Poitiers. Le jour où je suis partie faire pousser mes racines, je prends beaucoup de plaisir à le dire, c'est de la danse avec du texte, textes de Jean-François Rousseau, avec de la musique, avec de la vidéo, c'est tout ça.
Le rapport au texte est toujours très compliqué avec la danse. Donc à chaque fois, ça nous re-questionne.
Préciser que vous êtes encore en pleine création.
Oui.
Parce que vous avez encore un petit peu de temps pour ajuster le travail.
Alors on a fait quand même une présentation publique de notre état de travail au mois d'avril. Ça fait déjà un petit moment qu'on travaille sur ce spectacle. Je pense que l'ossature globale de ce qu'on a fait en avril va rester à peu près telle qu'elle était en ce qui concerne le texte. Et je pense que nos choix vont rester à peu près tels qu'ils étaient, mais c'est pas encore sûr à 100%. On est encore en questionnement. C'était très difficile pour nous de trouver comme à chaque fois, la place du texte dans la mesure où il n'y avait pas d'interprète, il n'y avait pas de comédien sur scène pour le dire, où on avait envie de faire autrement que les fois précédentes. C'est-à-dire, moi, je vous ai raconté un peu l'histoire de la compagnie. Donc, avec Jean-François Rousseau, on avait du texte qui était dit sur le plateau par un comédien qui était en jeu. Ensuite, on a fait l'expérience de Proserpine où le texte était dit par une comédienne, mais inclus dans une voix, dans une bande musicale originale qui venait raconter l'histoire et qui nous a permis de ponctuer le spectacle. Ça avait déjà été assez compliqué. Et le dernier spectacle, où là, le texte a vraiment une grande part, il est vraiment porté théâtralement par un comédien, et où la danse a une part de soutien de l'histoire qui est racontée. Et là, cette fois, c'est une forme un petit peu différente, parce que c'est vraiment un conte, c'est l'histoire d'une femme qui... C'est une métaphore de l'amour, c'est une femme qui se transforme en arbre. Et c'est un texte qui n'a pas une forme poétique ou une forme théâtrale, donc qui est très difficile, qui est très difficile à dire. Et donc nous, on était partis sur l'idée au départ qu'il y en ait une de nous deux qui le conte et que l'autre le danse. Et ça, c'était pratiquement impossible, et d'autant qu'on avait l'une et l'autre très envie de danser, et que c'était très difficile de passer de l'état de danseur. Ça, on a fait cette expérience-là avec cette pièce, la difficulté de passer du corps danseur au corps comédien. Ça, c'est très compliqué. On a essayé de travailler, on n'a pas vraiment réussi ça.
Et donc, quand vous parlez du corps comédien,
c'est-à-dire de comment sortir à un moment donné. Du danseur, de l'état dans lequel met la danse, à tout d'un coup un personnage comédien qui est en train de dire un texte. Et ça, on n'a pas encore abouti quelque chose qui nous paraissait satisfaisant à montrer au public. Je pense qu'on va travailler encore dans ce sens-là, parce que c'est quand même à long terme, pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de réussir à faire. Mais pour l'instant, on trouvait pas la place de lire le texte. Donc, on l'a enregistré et on a pris beaucoup de sa place. C'est-à-dire, on s'est emparé des métaphores du texte. On a fait d'autres métaphores. On a gardé cette trace de l'enracinement, de la racine, pour faire le fil conducteur de notre histoire. Et on a gardé l'idée que le texte, cette fois, allait un petit peu s'effacer et ponctuer, faire des apparitions ponctuelles qui nous permettraient de raconter les différentes étapes de métamorphose du personnage, en gros, si vous voulez. Donc, on est resté sur cette idée d'une chose qui s'écrit. On ne va pas tout vous raconter.
Non, parce que là, sinon...
Mais là, c'est beaucoup. Mais je veux dire, de toute façon, il restera une trace du texte dans le spectacle. Qui sera graphique, qui sera probablement aussi parlé,
Bon.
Mais qui sera plus réduite que ce qu'on avait l'ambition de faire au départ, on va dire.
Vous êtes de sur scène avec un musicien, Dan Panama, à qui vous avez commandé la musique. On écoutera un extrait tout à l'heure, enfin,
c'est une
de
rencontre,
ce qu'il fait.
C'est une rencontre... Effectivement, on peut pas dire qu'on lui a commandé la musique, parce qu'en fait, il est arrivé dans l'histoire, et puis ça s'est fait... On avait déjà écrit pas mal de choses en danse, Donc il y a des choses sur lesquelles
il a réagi.
Il a réagi, voilà. Et puis il y a d'autres choses qui sont construites, ou qui sont encore d'ailleurs un peu à construire
avec lui.
Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il vous voit danser, il prend sa guitare et...
Ah oui, il prend sa guitare, il en prend même,
il en a plein.
Il a un matériel qui lui permet de jongler avec des sons différents et des instruments différents.
Et là, il improvise ou bien il a déjà pensé à quelque chose
En ce moment
Oui, dans votre travail de...
Ah, dans notre travail, je pense qu'il a fait des propositions d'improviser. On a fait beaucoup, on a travaillé à partir de propositions qu'il a improvisées sur le moment. On n'a pas vraiment... Effectivement, on était partis... il est arrivé en cours de route dans ce projet. On cherchait l'homme qu'il nous fallait, le voisin derrière la haie. Donc, et c'est lui qui est arrivé.
C'est lui le voisin derrière la haie.
Et je crois bien, quand même.
Un petit peu, quand même. Hein.
On l'a invité comme musicien. Je pense qu'il va prendre sa place de voisin derrière la haie. Mais bon, ne lui dites pas...
Est-ce qu'il ne le sait pas encore ?
Il ne le sait pas encore. Il le sait, mais... Cela dit, il est arrivé, il a été force de proposition et nous a fait un bien fou parce qu'il a donné du corps à ce qu'on était en train d'écrire, il a donné de l'énergie, il a donné... il nous a amené à préciser nos intentions, du coup, nous a donné du rythme. Il a donné du rythme à ce qu'on faisait, vraiment, et c'était une très belle rencontre. On est très, très contentes de travailler avec lui.
Mais il travaille comme nous, c'est-à-dire il y a de l'improvisation et puis après il compose, il amène des choses qui sont composées. Puis nous on essaye de replacer les choses. Enfin, c'est un espèce d'aller-retour aussi hein, là, entre ce que lui peut voir et d'autres choses qu'il traverse aussi parfois comme ça. Il fait des propositions et nous on se dit, ça va moins bien. Oui, ça, c'est super. Et puis, ça se...
Nous a ça beaucoup regardé comme ça.
Il nous a regardé, oui.
Ça, c'était très... C'était très agréable, le fait qu'il n'est pas arrivé avec ses choses comme ça. Lui, ça, il ne s'est pas mis dans un coin à nous proposer des choses. Il s'est assis des fois dans le public avec sa guitare et il proposait des choses, il essayait des choses. Ça, c'était vraiment agréable, j'ai trouvé, dans le travail, d'avoir un musicien qui regarde ce qui se passe, qui fait avec aussi ce qu'il y a là, qui propose des fois des choses et ça, hein. Voilà, c'était vraiment, c'était bien quoi.
Et ce personnage de Proserpine, est-ce que vous êtes deux à l'incarner ou il y en a une qui l'incarne plus que l'autre ?
C'est une bonne question. Je te laisse répondre.
Oui, ben là, on est deux à l'incarner, c'est sûr. Mais je pense qu'on travaille sur les différentes facettes du personnage. Donc, ça a été un long propos d'ailleurs d'arriver à différencier ce que chacune peut dire de ce personnage
avec son propre vocabulaire.
Avec son propre vocabulaire, pas forcément, mais dans les intentions et dans la manière dont c'est scénographié et chorégraphié, d'avoir deux aspects à la fois complémentaires et qui forment une unité, parce que c'est ça qui est difficile. C'était déjà le propos dans le premier Proserpine, on était trois à incarner le même personnage. Et là, je pense que c'est encore plus fouillé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un personnage qui va être plus celui qui agit les choses du quotidien ou à l'extérieur, et puis un autre qui est peut-être un peu plus en arrière-plan ou qui donne une autre... qui va... impulser d'autres choses, mais venu plus de la profondeur. Mais bon, en même temps, c'est pas aussi clair que ça par moment, parce qu'il faut quand même que ce personnage il soit malléable, et il se positionne pas toujours de la même façon. Donc parfois on voit apparaître une facette, à d'autres moments on voit apparaître l'autre facette. Donc c'est ça qui était intéressant d'ailleurs à travailler par rapport au texte
et qui était peut-être plus compliqué. Et c'est là-dessus qu'on a chopé aussi au départ, quand on voulait dire le texte, parce qu'on avait, travaillé sur ces facettes et que c'était pas si simple que ça d'avoir quelque chose de raconté, qui soit pas complètement un personnage, parce qu'on dit le corps comédien, mais en même temps, on n'est pas des comédiennes, donc on peut pas parler comme des comédiennes. Voilà, donc dans la danse, eh ben, on essaye de travailler la multiplicité des facettes
du personnage.
De ce personnage.
Alors, je vais vous demander un exercice assez difficile, je sais, pour des danseurs, pour des chorégraphes, c'est pour nous permettre de rentrer dans ce spectacle. Je vous ai demandé de venir avec un extrait, une phrase chorégraphique d'un moment, voilà, du spectacle, et de nous raconter avec des mots, avec les mots à vous. C'est Hélène qui va se livrer à cet exercice
périlleux. Ah non, pas toute seule.
Vous allez le faire à deux?
Peut-être la séquence du yoga des arbres.
Voilà, parlons du yoga des arbres.
Donc, on est à la séquence du yoga des arbres, c'est au début.
C'est le début.
C'est le début du spectacle. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce début?
Il y a une femme qui est dans son jardin.
Danse dans son jardin. On entend son journal intime. On le voit s'écrire aussi. Et
elle parcourt son jardin, elle en fait le tour, elle circonscrit.
Ouais, elle circonscrit son jardin.
Peut-être elle sème des choses, on ne sait pas
elle
trop.
Elle sème des choses qui vont pousser peut-être. Et comment dire cette séquence? C'est difficile, on parle de cette séquence. C'est la première
derrière,
séquence
voilà,
que
y a quelque chose qui
construite,
se...
en fait.
Il y a un début très, très tranquille, très posé, que nous on appelle le yoga des arbres, mais qui est inspiré, on le dit, qui est inspiré plus du tai chi que du yoga, pour dire vrai. Donc ça se travaille aussi en arrière-plan, donc on va voir peut-être quelque chose d'assez... un petit peu effacé. Et c'est très posé, c'est très tranquille, c'est une phrase...
Oui, c'est une phrase d'un tai chi un peu poétisé, un petit peu détourné, on va dire. D'une rencontre du tai chi, de la danse contemporaine.
Voilà,
peut-être.
C'est ça.
Dont le but est de raconter comment cette femme se pose dans son jardin et commence à être penchée et à être désaxée par
ce qui se passe derrière.
Par ce qui pourrait se passer derrière la haie du jardin. Hein, c'est ça, l'idée, c'est ça. Et aussi de son rapport à la terre, qui parle aussi de son rapport à la terre.
Merci, mesdames.
Et vogue le navire.
Voilà, vous pouvez souffler. Le plus difficile est passé. Je vous propose qu'on a beaucoup parlé de lui, d'Anne Panama, qu'on l'écoute maintenant, non pas avec un extrait du spectacle, mais avec une chanson qu'il a enregistrée pour son dernier album. On l'écoute maintenant.
Les grands hectares du cœur ont tort de déclarer l'état de grève. Il y a du glas dans cette trêve. Il y a du glas dans cette trêve. La lumière baisse, le ciel est bas. Le grand amour avec grand A. Sur les toits pour la nuit, la chatte est sur les toits pour la nuit. Parle-moi l'amour, conjugue-moi, I love you. L'ombre blanche du bonheur, à midi, sous ta splendeur. terre, y a plus de fleurs. Que reste-t-il des étoiles, de nos chaleurs autant des cigales, de nos chaleurs autant des cigales. On s'égare à doubler sa voix. C'est trop petit pour l'arc-en-ciel. La clé d'une maison belle. La clé d'une maison belle. Parle-moi l'amour. Conjugue-moi. I love you. L'ombre blanche du bonheur. Ta splendeur. Ah, ah, ah. Parle-moi l'amour. Conjugue-moi. I love you. L'ombre blanche du bonheur, à midi sous ta splendeur. Parle-moi l'amour, conjugue-moi, I love you.
L'ombre blanche d'Anne Panama qui partagera la scène de la Blaiserie avec les chorégraphes danseuses Laurence Barrault et Hélène Massé de la compagnie L2 au moment de la création du spectacle Le jour où je suis partie faire pousser mes racines, un spectacle qui sera créé les 30 septembre et 1er octobre donc à Poitiers. Mesdames, il nous reste juste assez de temps pour préciser que c'est un travail d'équipe. Que vous êtes trois sur scène, mais qu'il y a du monde qui travaille avec vous derrière.
C'est pas rien, c'est vraiment pas rien, parce qu'on a un vidéaste qui nous fait une création vidéo, qui a un rôle très très important dans cette histoire.
C'est Laurent Meunier.
Voilà, ouais. Et il prend vraiment à son compte une part de la métaphore du conte aussi. Et puis on a aussi une costumière. Dont on voudrait parler quand même, qui s'appelle Béatrice Ferron, et à qui on demande beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup de costumes dans ce spectacle, puisqu'on parle de métamorphose, donc on a beaucoup de changements de costumes, et qui nous fait des choses magnifiques, qui sont vraiment entre le costume et les arts plastiques, puisqu'on en parlait. Et enfin, on a un décorateur aussi, qui s'appelle José Pedrosa, et qui a construit le décor du spectacle.
Est-ce que j'ai... Il y a aussi quelqu'un qui fait qui la création lumière.
Oh oui,
il s'appelle David Mastretta.
Voilà, David Mastretta, qui arrive tout juste dans notre équipe. Et voilà, qui est un garçon très subtil et très sensible et qui, j'espère, va nous faire des lumières magnifiques.
Alors, il y avait une personne aussi qui a beaucoup travaillé avec nous, qui fait partie de l'équipe, c'est Hervé Guérand-Invert, avec qui on a beaucoup mis en place de choses par rapport au texte et puis qui nous a aidés aussi sur le découpage. Et voilà, c'est une collaboration théâtrale. Qui est très importante. Et puis Hervé, c'est aussi quelqu'un avec qui on avait déjà travaillé.
C'était le comédien de La Trêve.
De La Trêve.
Alors, le rendez-vous est pris le jour où je suis partie faire pousser mes racines. Donc, le 30 septembre à 20h30, le 1er octobre à 20h30 aussi, au centre de la Blaiserie, c'est à Poitiers.
Voilà.
On arrive au terme de cette émission. Je recevais les chorégraphes danseuses Laurence Barrault et Hélène Massé à l'occasion de la création de leur nouvelle pièce. Merci Laurence, merci Hélène d'avoir répondu à mon invitation.
Merci à vous.
Merci également à Eric à la technique aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission
et la podcaster sur le site internet de l'Agence régionale du spectacle vivant à l'adresse www.arsv.fr. La semaine prochaine, nous parlerons de musique classique, d'opéra. Je recevrai Jean-Yves Godin, le directeur artistique du festival Les Coréades, dont la 16e édition se déroulera du 21 septembre au 17 octobre dans toute la région. À la semaine prochaine.
C'était Évogue le navire, une émission réalisée, présentée par Sylvie Caquet et proposée par l'Agence régionale du spectacle vivant.